on parlait de racisme, je pense que c'est pas l'apanage de l'extrême droite d'avoir des comportements, des réflexes et des pensées racistes. En tout cas, là, il y a une espèce de palier supplémentaire qui a été franchi et qui déclenche une véritable peur. Voilà, autour de moi, des gens pensent à partir, enfin, je veux dire, à quitter la France pour leurs enfants, parce que notamment l'islamophobie est telle que c'est de plus en plus difficile de supporter cette espèce d'ambiance, quoi.
Ouais, et ça se comprend. Et après, voilà, il y a plein de personnes aussi qui se disent partir, oui, mais pour aller où ? Faire quoi ? On a tout construit ici, on a notre travail, notre entourage. Enfin, ce serait vraiment la double peine, là. On est sur quelque chose de... ces personnes-là souffrent de multiples oppressions et devront, en plus de ça, abandonner tout ce qu'elles ont construit pour pouvoir se protéger. Ça me met en colère, du coup.
Le sentiment aussi d'impuissance, de comment je peux agir face à ça. Enfin, je pense que, ouais, il y a... On en reparle, mais ouais, de ce besoin de se retrouver, que ce soit... en manif, en AG, pour parler de comment on peut s'organiser pour mettre en place des choses, en fait. Parce que je pense pas que ça va venir, pour moi, des partis politiques. Je pense que les initiatives, en termes d'avancée de droits et de défense et de lutte, elles se font par et pour les citoyens.
Ce qui se passe aussi, tous ces mouvements d'immigration, c'est une conséquence de la colonisation. Et ça, en fait, on n'en parle pas, déjà. On n'en parle jamais dans l'histoire qu'on nous a enseignée à l'école. On n'en a jamais parlé. Enfin, moi, je n'avais pas trop compris en grandissant, je pense. Il y a un épuisement des ressources, ou un climat de guerre. Voilà, tout plein de facteurs qui font qu'il va y avoir une fuite des populations. Et les populations, elles vont fuir vers les pays où nous, eh ben, on est tranquille, on a la possibilité de travailler, il y a encore des ressources qui sont disponibles. Et les personnes en France disent « Ah non, 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 en fait, on n'est pas d'accord, nous on n'a plus de place, vous venez prendre notre travail. » Il y a un réel rejet de ces personnes qui veulent juste une vie, en fait, digne. Et donc on est dans une hiérarchisation, en fait, des populations, et de dire que nous, en tant que Français, Françaises, Blancs, Blanche, on vaut mieux qu'une personne du Sénégal, une personne de Mayotte. On peut regarder aussi toutes les anciennes colonies françaises dont on parle pas, qui ont été forcées d'être stérilisées. Leurs enfants leur ont été enlevés pour éviter que ces populations grandissent de plus en plus. Enfin, des états d'indépendance qui leur ont été donnés en tant que cadeaux, sauf que sans aucun accompagnement, et qui aujourd'hui sont des îles, notamment dans une très grande précarité, avec un système de prostitution infantile qui explose tous les records. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on n'en parle pas non plus. Et je trouve ça dommage, parce que ça fait partie aussi de notre histoire.
Là, tu parlais exactement de quel endroit, quand tu parlais de ces exemples.
De l'océan Indien, des îles de Mayotte, des Comores. Mmh. Enfin, moi, je viens de La Réunion. À La Réunion, on en parle, en tout cas. Mais je n'ai jamais entendu parler dans les médias français, ou très très peu. Il y a quelques documentaires.
Ah bah le déni, c'est confortable. Le déni, ça permet de ne pas avoir les problèmes et de faire comme si rien ne se passait. Je pense que c'est un refus catégorique aussi de prendre, en fait, et d'assumer les responsabilités des actes des colonies françaises et de la volonté de ne pas vouloir réparer aussi. Enfin, il y a tellement eu de préjudices qui ont été faits, et il n'y a rien qui a été fait en termes de réparation, de reconnaissance. On n'est même pas à des stades de reconnaissance, en fait, avant de réparer. Pour ça, il faut reconnaître, et on n'en est même pas là.
Sur Mayotte, alors c'est Darmanin qui avait voulu faire une zone d'exception avec une loi remettant en cause le droit du sol, et le Rassemblement National s'inscrit aussi dans cette logique, avec un contrôle migratoire complètement délirant, notamment la remise en cause du droit du sol. On parlait de contrôle aux faciès tout à l'heure. Ça va être évidemment renforcer le profilage racial, comme on dit pudiquement dans les manuels de la police. Évidemment, on sera institutionnalisé. Statistiquement, il y a aussi une hausse des violences et des crimes à caractère raciste. Il y a une rhétorique politique qui exacerbe ces comportements, à propos de l'idée de hiérarchisation aussi des différentes catégories de citoyens, citoyennes, même si je suis pas super fan du mot, puisque il y a une espèce de ouais, de rhétorique populiste qui divise la société de la part du Rassemblement National à longueur d'antenne et de discours entre un peu nous et eux. Oui, ça crée un climat où puisque l'autre est déshumanisé, eh ben tu peux te permettre de le violenter, de l'insulter.
Hier, j'écoutais un podcast de Présage et c'était une interview de Félicien Faury qui est en fait chercheur sociologue et qui a fait toute une étude sur les votes du RN, le racisme et les rapports sociaux. Et du coup, c'est super intéressant en fait à quel point il explique dans ce podcast-là, on a tendance à faire de l'exceptionnel les personnes qui vont voter pour le RN. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est voilà, une personne raciste qui parce qu'elle vient de ce background ouvrier. Mais en fait, pas du tout. Là, justement, en fait, dans son bouquin, il va montrer à quel point il y a aussi une normalisation, quelque chose de l'ordinaire et quelque chose qui vient du groupe, en fait. Enlever cet aspect extraordinaire, rarissime, ça permet aussi de comprendre, en fait, les chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on était un peu avec des œillères jusqu'à présent, justement, de se dire que, bah, non, mais il y a très, très peu de personnes. Ça devient de plus en plus rare, en fait, de croiser des personnes qui sont racistes. Sauf qu'en fait, c'est tellement ancré dans l'ordinaire. Là, on parle plus du vieux tonton blanc qui sort des propos racistes à longueur de repas de famille. Là, on parle de racisme imprégné dans la société qui se trouve à tous les coins de rue, dans toutes les interactions, dans les blagues ordinaires entre potes, et que je pense qu'on oublie énormément de visibiliser.
Bienvenue dans Présage. Des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Félicien Faury, qui est chercheur en sociologie politique. Son ouvrage « Des électeurs ordinaires » est le résultat d'une longue enquête dans le sud-est de la France. Il éclaire les ressorts du vote pour l'extrême droite en donnant à voir les visions du monde qui le sous-tendent. Qu'est-ce qui, dans la vie ordinaire des électeurs et électrices, les rend sensibles et favorables au discours du RN ? Bien sûr, pour comprendre l'ascension de ce parti, l'analyse du contexte économique, politique et médiatique est indispensable, mais pas suffisante. Contrairement aux discours qui ne se concentrent que sur le ressentiment économique ou qui tendent à isoler les causes les unes des autres, quitte à balayer la dimension raciale, Félicien Faury montre que le racisme reste un enjeu central dans le vote d'extrême droite, parce que le racisme est multiple et transversal à toute la société, qu'il est un enjeu identitaire, mais aussi un rapport de pouvoir socio-économique. Ainsi, en évitant la condescendance et le misérabilisme, on peut comprendre le vote RN comme la volonté de maintenir une place et des privilèges fragilisés dans un ordre social et racial au sein duquel la concurrence pour les ressources communes augmente. C'est un livre, je crois, important, car il est fondamental d'être lucide sur la situation politique et de penser ensemble les logiques de classe et de race pour comprendre la normalisation du discours d'extrême droite dans toute la société et agir en conséquence.
Fatigant pour la manière dont je m'habille, choquant pour tout ce que j'ai à dire, faire ou porter.
Voilà, on avait envie de parler aussi d'organisation et de politisation du coup des milieux queer intersectionnels qui essaient au mieux de rejoindre différentes luttes.
Ouais, c'est vrai que ça vient remettre du baume au cœur. C'est un sursaut, c'est comme un électrochoc, mais après on se retrouve en fait de valeurs pour être et faire ensemble. Et ça c'est chouette. Et je pense aussi qu'on peut lutter à travers des luttes féministes intersectionnelles qui englobent les intérêts de chacun, chacune, de la nécessité de continuer à s'informer, à s'éduquer, d'agir, de visibiliser pour qu'on puisse vivre ensemble et que ce soit chouette pour tout le monde.
Au moment où il y a eu la sortie de cette loi transphobe, une grande organisation collective et nationale qui s'est mise en place. Il y a eu plusieurs appels qui ont été relayés par notamment la Coordination nationale féministe et plusieurs personnalités et associations pour les droits des personnes trans qui se sont organisées pour faire passer des informations, essayer de créer de la visibilité aussi sur les parcours réels de ces personnes. Et je pense que ça a commencé par là, en fait. Enfin, on a commencé à se rassembler et à aller en manif à partir de ce moment-là. Et du coup, il y avait déjà un élan au moment du résultat des élections.
Je me rappelle, il y avait des rassemblements tous les deux jours ou chaque semaine par rapport à la loi qui était passée au Sénat transphobe, la loi 435 dont on a parlé tout à l'heure. Et rien que déjà en allant à ces rassemblements, moi je sais que ça me faisait énormément de bien aussi de se retrouver avec des personnes dont tu vois qui se soucient des personnes trans. Après c'est aussi beaucoup des personnes, moi j'ai vu de la communauté LGBTQIA+, moi j'essaie aussi de mobiliser mes potes en dehors de cette communauté à la nécessité de venez entendre en fait les discours, venez entendre les vécus de ces personnes, la nécessité aussi de visibiliser le soutien. Moi, je trouvais ça important. Et c'est vrai qu'en allant à ces rassemblements, moi, ça m'a fait énormément de bien aussi d'entendre en fait, des paroles de mineurs trans, de parents trans qui soutenaient en fait, leurs enfants dans leur transition. Ça m'a apporté du baume au cœur, en fait. Ça m'a fait du bien. Pour revenir à ces rassemblements, on y trouve beaucoup de soutien, d'identification. Et ça vient aussi unifier et on peut se retrouver après sous forme de joie. Enfin moi je trouve que ça m'a fait du bien, c'est venu apporter à des endroits, c'est venu apaiser des endroits de colère, de peur.
Et je pense que c'est énormément ce qui a été ressenti aussi au lendemain des élections européennes. Donc voilà, les résultats c'était le dimanche soir et le lundi matin il y a eu un appel à manifester qui a été fortement relayé. Il y a eu une mobilisation mais incroyable le lendemain. Moi, j'étais pas là personnellement, j'étais bien dégoûtée d'ailleurs. Mais j'ai vu des images et j'ai eu les ressentis des copaines qui étaient allées, tu vois, avec cette peur au ventre des résultats et cette déprime aussi qui s'en est suivie, de voir à quel point il y avait du monde qui se mobilisait et que c'était pas OK, que ça allait pas, que l'extrême droite elle allait pas passer comme ça. C'est incroyable, ça crée vraiment justement, ça redonne de la force de pouvoir s'organiser en dehors d'aller voter. Là, on en a parlé tout à l'heure, on s'est dit que on n'allait pas parler du vote ou du pas vote aujourd'hui, on n'allait pas ni inciter à voter ni parler d'abstentionnisme, parce que je pense que ce sont des choix qui sont personnels, mais plutôt on avait envie de visibiliser aussi tout ce qui est fait à côté du vote et tout ce qui est mis en place pour soutenir ces communautés-là.
Parce que je pense qu'on a assez parlé aussi des implications et des actions aussi du RN et qu'en fait, en connaissance de cause, les gens font des choix pour eux ou pour les autres. Et puis que bon, le vote, c'est pas une fin en soi et qu'il y a aussi plein d'autres choses et plein d'autres moyens de s'organiser et, pour lutter contre la montée de l'extrême droite et du fascisme.
Oui, donc on en a parlé, solidarité communautaire, des mobilisations dans l'espace public, de la visibilité.
Je pense que le rôle de ces rassemblements et de ces manifestations et de tous ces espaces de communication, c'est de permettre aussi aux personnes qui en ont l'espace, et parce que quand on vit autant d'oppression, c'est pas toujours facile d'être impliqué de façon active, militante, mais de radicaliser en fait la conscience politique des personnes qui subissent ces violences et ces oppressions, et de se dire ok, donc en fait, c'est pas juste moi à titre individuel. C'est, on est sur quelque chose de systémique, on est sur quelque chose de beaucoup plus global. Et comment est-ce que, avec un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies et la même colère que moi, on va réussir à s'organiser. Et ça peut être, en fait, ça peut être de plein de façons différentes. Moi, je suis allée à l'AG queer féministe qui était appelée par plusieurs collectifs radicaux à Toulouse. Et en fait, il y a plein de propositions d'actions directes qui sont faites. Ça peut être d'organiser une projection de documentaire et ensuite une discussion. Mmh. Ça peut être d'organiser une fête, en fait, de faire la fête et de célébrer aussi nos fiertés, nos communautés, et de se faire du bien en pensant à autre chose. C'est aussi plein d'autres actions directes, illégales, qui sont plus axées sur l'explosion de cette colère. Mais il y a plein de façons, en fait, de faire du soin et de prendre soin de
action,
soi.
Action illégale et explosion, quand même. Tu penses à un truc ou...
Non.
Ouais, de sortir de la peur qui peut aussi nous faire... la peur, ça peut nous... La peur ou la tristesse de ce qui se passe... ou de ce qui peut se passer dans nos vécus, ça peut soit nous immobiliser ou soit nous figer, en fait. Et du coup, de sentir qu'on n'est pas seul, en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui est aussi hyper important, c'est de sentir qu'on n'est pas seul et que, en fait, l'union fait la force. Et qu'en s'organisant, il peut se passer des choses, comme on en a parlé, en fait, en tout début. C'était après les émeutes de Stonewall, ça fait un réveil, un sursaut, et il y a plein d'associations qui se sont créées, qui ont visibilisé, qui ont organisé des actions pour militer pour le droit des personnes homosexuelles et transgenres. Donc c'est aussi ça aujourd'hui qui est en train de se faire, c'est de la nécessité de se regrouper et à travers plein de différents moyens, en fait, de parler, d'informer, d'éduquer et de pouvoir faire peut-être des actions visibles un peu plus vénères pour marquer le coup et les esprits, mais de se dire en fait on est là, on existe.
Elles avaient beau se répéter à quel point elles étaient fortes, aucune d'entre elles ne s'était déjà battue. On leur avait tellement rabâché qu'elles étaient le sexe faible que même à 7 contre 1, armées, elles étaient toutes persuadées qu'elles auraient perdu. C'était cet esprit de la défaite qui donnait un avantage immédiat à l'agresseur. Parce qu'elles ne pouvaient pas s'imaginer gagner ou même avoir un effet sur ce qui allait arriver. Les filles ne ripostaient jamais, ou très peu, persuadées que rien ne pourrait leur rendre justice. Je crois que c'est ça mon problème, commence Lucy. J'ai l'impression de ne pas avoir d'issue de sortie. Je bosse, et quand je rentre chez moi, c'est la même chose. Les gens s'effondrent. C'est un glissement de terrain perpétuel, tu vois. Un genre de domino de la déprime. Ça vient de partout. Et moi, je ne sais pas quoi faire, ni quoi dire. Et j'aimerais bien, Mia. Je t'assure que j'aimerais bien sauver tout le monde. J'aimerais les porter sur mes épaules hors de l'eau. J'aimerais être celle qui change leur vie. Tu vois mon altruisme? C'est un peu de l'égoïsme. Je m'y plonge tête baissée et je me noie. Putain, je me noie, là, il y a de l'eau partout et j'ai l'impression de plus savoir nager. Et j'y passe tellement de temps, Mia. Je te jure, tellement de temps perdu, de temps que les mecs utilisent à vivre, à s'élever socialement, à créer, pendant que nous, on se ramasse parmi, on tente d'endiguer l'hémorragie avec un salaire de 1000 balles par mois. Moi, je passe ce temps à être calme, à sourire, à contenir. Putain, qu'est-ce que je contiens? Je garde à l'intérieur. Je veux pas faire de vagues. Il paraît qu'en plus, les mecs ont peur des filles qui parlent trop fort. Et moi, je veux pas en plus être seule, tu vois. Mais j'ai l'impression d'être trop abîmée. Trop foutu. Je les intéresse plus et je me déteste de vouloir encore les intéresser.
Je pensais au bouquin de Marcia Burnier, Les Orageuses, où là, c'est ce livre, et moi, il m'a fait vibrer du début à la fin, où c'est un groupe de meufs qui se rend compte qu'elles ont toutes été agressées sexuellement et qui vont aller se venger de leurs agresseurs et qui du coup s'organisent autour de ça, avec aussi beaucoup de sororité et d'adelphité dans leur groupe et de prise de soin dans à quel point ça fait du bien en fait aussi de parler de nos vécus et de savoir que tristement, hein, d'autres personnes l'ont vécu aussi, ben, mais ça crée quand même des ponts entre nous. Et cette riposte, en fait, féministe, pour moi, elle est nécessaire. Autant pour... voilà, je parle beaucoup de colère parce que j'en ai beaucoup, mais pour voilà, faire apaiser peut-être la colère qui grandit, mais pour aussi reprendre en fait du pouvoir d'action, de se dire de ne pas se sentir juste en tant que... moi, je n'ai pas envie de me sentir en tant que victime oppressée de tout ce que... de tout ce système, et du coup de me mettre en action et d'aller faire des actions directes, quelles qu'elles soient, selon mes capacités du moment, ça me fait du bien et c'est un super exutoire, et c'est ce que je peux retrouver en fait dans ces organisations.
Ouais, la nécessité de riposter pour faire comprendre qu'on est en train de dépasser nos limites. Et comme Emile l'a évoqué dans le roman Les Orageuses, ces personnes, en fait, elles s'organisent et elles proposent une riposte féministe parce qu'en fait, le système judiciaire les a abandonnées. Aujourd'hui, les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, ne sont pas condamnées par la justice. Il suffit de regarder les faits. La majorité des viols sont requalifiés en agressions sexuelles. Faute de preuves, souvent on va opposer la parole de la victime à la parole de l'agresseur. Il y a la présomption d'innocence, c'est quand même une inversion de la charge de la preuve, où c'est à la victime de prouver qu'elle est victime. Enfin, c'est tout un système qui est pour moi aujourd'hui judiciaire, qui est cassé, qui ne soutient pas les victimes. Et du coup, il y a nécessité, en fait, par les personnes qui sont concernées par ces oppressions, de se regrouper, de se mobiliser et de proposer une riposte. En utilisant la violence ou non, mais la violence est pour moi un moyen de défense, donc un moyen de légitime défense face à une réponse au patriarcat qui est lui, qui est violent, qui tue et qui continue. Et du coup, c'est aussi d'utiliser différents moyens pour se défendre.
Moi, j'aimerais bien partager une citation que j'ai lue dans La Déferlante, numéro 13, de Sarah Fernandez. « Si on sent notre intégrité physique ou sexuelle menacée, on a le droit de frapper, de se défendre avec son corps. C'est de la légitime défense. Il est nécessaire de déconstruire cet interdit. Ce n'est pas interdit de recourir à la violence quand elle est un moyen de se défendre. Se défendre, ce n'est pas agresser. »